I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Bonjour, c'est Charlotte Baris. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez, venez, on va écouter l'info de plus près. Chers auditeurs, vous vous en souvenez peut-être, l'année dernière, l'Inde est devenue le pays le plus peuplé de la planète en passant devant la Chine. Dans ce contexte, on vous avait proposé un épisode sur les grands défis du pays. On vous expliquait que l'Inde allait devoir mettre son économie à niveau, développer son attractivité diplomatique et surtout répondre à ceux qui contestent son régime de plus en plus autoritaire. En première ligne face aux critiques, Narendra Modi. Au pouvoir depuis 2014, le Premier ministre indien brigue un troisième mandat de 5 ans à l'occasion des élections législatives qui ont débuté le 19 avril. Le nationaliste hindou et son parti, le BJP, sont donnés grands favoris. Déjà, lors d'un récent discours, le Premier ministre se montrait très confiant. Vous êtes resté bloqué en 2029, moi, je me prépare pour 2047. Narendra Modi voit loin, pourtant, son bilan politique ne fait pas l'unanimité. Ses dérives autoritaires inquiètent, alors que l'opposition peine à lui barrer la route. Une élection lourde d'enjeux pour l'Inde et pour le Premier ministre indien, qu'on passe à la loupe dans cet épisode. Pour cet épisode, j'ai tout naturellement appelé Guillaume Delacroix, ancien correspondant de l'Express en Inde, co-auteur du livre « Dans la tête de Narendra Modi » et désormais correspondant en Espagne. Bonjour Guillaume.
Bonjour.
Guillaume, on sait que l'Inde est le pays le plus peuplé du monde, avec 1,4 milliard d'habitants. Ça doit rendre l'organisation d'un scrutin assez compliqué.
Ben c'est moins qu'on puisse dire. On parle quand même de 970 millions de votants qui sont appelés aux urnes, depuis les montagnes enneigées de l'Himalaya jusqu'au désert du Rajasthan, en passant par les îles d'Andaman, du côté de la Birmanie. C'est du jamais vu, parce que la population de l'Inde croît d'année en année, et donc c'est beaucoup plus qu'il y a 5 ans. Mmh. Les Indiens doivent élire 545 députés à la Lok Sabha, la Chambre base du Parlement, et les résultats prévus le 4 juin prochain permettront de déterminer le parti majoritaire et donc le nom du nouveau Premier ministre.
Et comment se déroulent ces 44 jours de scrutin ?
L'étalement permet de ne pas installer les millions de bureaux de vote et d'urnes prévus en même temps. Évidemment, c'est impossible, logistiquement impossible. Mmh. Et donc, il y a 5 millions d'urnes à déplacer dans tout le pays. Donc, évidemment, ça prend du temps. Et donc, on organise 7 phases, 7 journées de vote différentes au long de 6 semaines. Ça fait 44 jours au total, en effet. Derrière cet étalement du scrutin, il y a aussi une question de sécurité. Les forces de police, l'armée, qui doivent être présentes sur place aussi pour vérifier que tout se passe bien et qu'il n'y a pas de violence, etc. Elles ne seraient pas assez nombreuses, de toute façon, pour couvrir l'ensemble des bureaux de vote au même moment. Donc tu t'en doutes, tout ça, ça demande une organisation monstrueuse. Et pour faciliter le déroulé des élections, le gouvernement a mis en place des outils numériques.
Souvent, quand on parle de vote électronique, on évoque les risques de fraude. Est-ce que c'est le cas aussi pour ces élections en Inde ?
Eh bien, il y a effectivement des soupçons grandissants, d'autant que maintenant, les boîtiers électroniques, ils sont généralisés. Et évidemment, comme c'est informatique, il y a des gens qui doutent de la fiabilité du système. Ces machines, pendant cette période, elles se déplacent d'une région à l'autre. Et on ne sait pas en réalité ce qu'elles deviennent entre deux journées de vote. Mmh. Il y a des gens qui les gardent, qui les conservent dans des endroits sécurisés. Il y a aussi des informaticiens qui gère les logiciels, qui collecte toutes les données, à la fois des électeurs et de ce qu'ils ont voté. Et tout ça, en fait, ça reste très flou pour le commun des mortels. Et du coup, il y a des gens qui se posent beaucoup de questions parce qu'on ne sait pas vraiment qui contrôle quoi.
Guillaume, quand on regarde la couverture médiatique autour de cette élection, on remarque que Narendra Modi est donné largement gagnant.
Oui, alors moi, je préfère rester prudent parce que, bon, la démocratie, c'est la démocratie. On n'est jamais à l'abri d'une surprise. Il peut y avoir un grain de sable dans la machine, même si le régime actuel est quand même très bien huilé. Et puis, surtout, en Inde, la victoire peut se jouer à très peu de choses parce que pour gagner, il suffit d'être le parti en tête. Mm-hmm. On n'a pas besoin d'obtenir plus de 50% des suffrages, comme c'est le cas pour, par exemple, l'élection présidentielle en France ou les législatives, puisque chez nous, il y a deux tours. En Inde, il y a un seul tour. C'est un scrutin uninominal à un tour, ce qui veut dire qu'on peut remporter l'élection même si on n'a que 10 voix d'avance. Et donc, du coup, ça permet de cumuler des mandats indéfiniment. Et ça, évidemment, l'opposition l'a bien en tête.
J'allais justement te poser la question, qui est-ce qu'on trouve en face du Premier ministre sortant ?
Alors, le Premier ministre sortant, Modi, est à la tête du parti de droite, le BJP, le Parti du Peuple Indien. Et en face, il y a, pour l'essentiel, au niveau national, le Parti du Congrès, qui est la formation historique, le Parti de l'indépendance, comme on l'appelle, puisque c'était le parti du Mahatma Gandhi et de Nehru. Le Parti du Congrès a réussi cette année, contrairement aux fois précédentes, à monter autour de lui une coalition qu'il a baptisée India. C'est une coalition qui regroupe une quarantaine de partis d'opposition. Elle comprend, outre le Congrès, des grands partis régionaux, notamment le Trinamool au Bengale, le Parti de l'Homme Ordinaire qui règne notamment à Delhi, qui gouverne au Punjab. Et voilà.
Une coalition de 40 partis, c'est énorme. J'imagine que dans ce contexte, c'est compliqué de se mettre d'accord.
C'est vrai que tout cela donne un rassemblement assez hétéroclite. C'est très compliqué de se mettre d'accord dans chaque circonscription. Et puis surtout, il est difficile de faire campagne sur un programme commun parce que les alliés de cette coalition sont extrêmement différents les uns des autres. Leur seul objectif, la seule chose qui les unit, c'est de barrer la route au BJP. Mmh. Alors les partis qui sont membres de cette coalition, India, prêchent l'unité et se retrouvent adversaires, hein, c'est ça le problème au niveau régional, parce qu'il y a très peu de partis qui ont une dimension nationale. Et du coup, quand il faut décider de quel candidat présenter dans les circonscriptions, ça grince. Voilà. Et puis le BJP lui-même fait des alliances locales. Dans certains États, il y a des petits partis qui préfèrent s'allier avec le parti au pouvoir pour être sûr d'avoir des sièges, d'être emportés, disons, dans la vague majoritaire, plutôt que de suivre la coalition d'opposition India.
Des soupçons de fraude, des coalitions d'opportunités. À t'entendre, on a l'impression, Guillaume, qu'on est très loin du surnom de l'Inde, la plus grande démocratie du monde.
Oui, le risque, ce serait de transformer l'Inde en une démocratie de façade, avec un pluralisme qui n'en est pas un en réalité. L'important pour Narendra Modi, c'est d'obtenir une certaine légitimité, la légitimité par les urnes, ce qui lui permettrait de rester au pouvoir plus longtemps encore. Mais l'expression « plus grande démocratie du monde » ne veut plus dire grand-chose, parce que la démocratie, c'est pas seulement la tenue d'élections, c'est aussi l'existence d'un état de droit et de contre-pouvoir, et ça n'existe plus en Inde.
Ce scrutin, c'est donc un véritable test pour la démocratie en Inde, et celui qui concentre toutes les inquiétudes, c'est Narendra Modi, le Premier ministre, dont le bilan pourrait jouer en sa défaveur.
Charlotte, je t'ai envoyé une photo là, qui date de la fin des années 90 et qui nous raconte qui est Narendra Modi lors de ses premiers pas en politique.
En attendant que j'ouvre mes mails, Guillaume, tu peux nous expliquer le parcours du Premier ministre sortant ?
Oui, alors Narendra Modi, c'est ce qu'on appelle un autodidacte. Il n'a pas fait d'études, même s'il assure le contraire. On n'a jamais eu la preuve qu'il avait obtenu des diplômes. C'est un homme d'appareil qui est formé depuis l'enfance par une organisation tentaculaire, le RSS. C'est l'Association des Volontaires de la Nation en Hindi, un groupe paramilitaire d'extrême droite qui s'est inspiré à l'origine, il y a une centaine d'années, des phalanges fascistes de Mussolini dans les années 20. Mmh. Cette organisation est présente sur tout le territoire, elle a des écoles, des associations, des publications, etc. Et elle multiplie ses références au Troisième Reich en considérant que l'Inde devrait faire avec les musulmans ce que les nazis ont fait à l'époque avec les juifs. Le BJP, c'est donc le parti au pouvoir et la vitrine politique de ce RSS. Narendra Modi, lui, a été formé pendant des années au RSS et puis dans les années 80, lorsque ce parti a été créé, il a intégré les instances politiques de cette nébuleuse. Il avait seulement 34 ans à l'époque.
Sur la photo que tu m'as envoyée, on voit donc plusieurs hommes debout sur un char qui salue la foule. À droite, je reconnais donc Narendra Modi. Avec sa barbe blanche, il n'a pas beaucoup changé. Mais qui est l'homme à sa gauche ?
Alors à gauche, c'est le patron du BJP de l'époque. Il s'appelle Lal Krishna Advani. Bon, il est à la retraite aujourd'hui. Dans les années 90, Advani organise un voyage à travers tout le pays pour entraîner les hindous les plus radicaux derrière lui. C'est une sorte de procession, un énorme cortège qui dure des semaines et qui se dirige vers une mosquée qui avait été construite au XVIe siècle par un empereur moghol dans la ville d'Ayodhya. Et l'objectif donc de Advani et du jeune parti BJP, c'est détruire la mosquée. Et ce qui est important en fait pour moi sur cette photo, c'est que l'homme de l'ombre qui organise la logistique de ce voyage, de cette procession, eh bien c'est Narendra Modi. Il a une quarantaine d'années et il est l'artisan de cette concentration des forces les plus radicales du mouvement hindouiste qui donnera lieu donc à la démolition de la mosquée d'Ayodhya en 1992 et aujourd'hui, en 2024, à l'inauguration d'un temple hindou à la place de cette mosquée.
Et cette politique hindoue d'extrême droite, est-ce qu'elle guide encore Narendra Modi aujourd'hui ?
Oui, évidemment, parce que Modi est le résultat de ça. Il a été formaté par cette idéologie, il en est le fruit. Et en fait, son objectif, lui, c'est d'asseoir la domination des hindous au détriment des minorités et notamment des musulmans. Ces derniers sont quand même 200 millions dans le pays, c'est pas rien. Ça fait de l'Inde le troisième pays musulman au monde derrière l'Indonésie et le Pakistan. Mais pour Modi, l'important, c'est que l'hindouisme dépasse la dimension religieuse. C'est, être hindou, c'est appartenir à une culture, c'est un art de vivre et c'est aussi en fait une race. Il considère au BJP que l'hindouisme fait partie de l'ADN des Indiens. Il est pratiqué aujourd'hui en tant que religion par 80% de la population. Et avec cette politique, eh bien, Modi veut s'adresser en fait à la majorité en flattant la fierté hindoue et en utilisant les musulmans comme l'ennemi commun. Même si, attention, ce n'est pas parce qu'on est hindou en Inde qu'on est forcément pro-Modi.
Si je me souviens bien, l'autre argument de campagne qui l'a aidé à se faire élire à la tête du pays, c'était sa volonté de lutter contre la corruption. 10 ans après, on en est où ?
Eh bien, sur ce thème de la corruption, on peut dire que Modi s'est fait prendre la main dans le pot de confiture tout récemment. Laisse-moi te raconter en fait l'histoire des electoral bonds. Ce système consistait à permettre à des entreprises et à des personnes privées de faire des dons de façon totalement anonyme aux partis politiques. Et tout récemment, donc en février, la Cour suprême a fini par interdire cette usine à gaz et a imposé la transparence de ces échanges de fonds. On s'est alors rendu compte que c'est le parti de Modi qui en a très largement bénéficié. Ce système des electoral bonds a rapporté un peu plus de 1,8 milliard d'euros et le BJP, à lui seul, en a capté une bonne moitié. Le reste a été partagé entre les 5000 autres partis que compte l'Inde. Donc, c'est dire le déséquilibre démocratique aujourd'hui sur la question du financement. Et c'est quand même paradoxal pour quelqu'un, Modi, qui disait vouloir lutter contre la corruption. Car en fait, la plupart des donateurs sont des patrons de grandes entreprises, amis de Modi, des oligarques qui ont donné de l'argent en échange de marchés publics. Certaines entreprises auraient acheté des electoral bonds sous la menace de différents services de l'État, le fisc, c'est de l'extorsion pure et simple en fait. Et l'influence du BJP ne s'arrête pas à l'administration, elle s'étend aussi au contre-pouvoir, ce qui fait que règne aujourd'hui en Inde un climat de peur qui transforme complètement la vie politique.
Ça, on en a parlé il y a quelques mois dans un épisode précédent avec André Choup, correspondante de l'Express à New Delhi. J'ai préparé l'extrait qui nous intéresse, écoute.
Le gouvernement a interdit un documentaire réalisé par la BBC qui accusait le Premier ministre d'avoir ordonné à la police de ne pas intervenir lors des pogroms anti-musulmans de 2002 dans le Gujarat, alors qu'il dirigeait à l'époque cet État.
Alors Narendra Modi, lui, va encore plus loin parce qu'il a permis à des milliardaires de prendre le contrôle des grandes chaînes de télévision indiennes. Aujourd'hui, je le rappelle, l'Inde est classée 161e sur 180 par Reporters sans frontières en termes de liberté de la presse. Elle a perdu 11 places par rapport à l'année précédente, par rapport à 2022. Et puis surtout, les opposants n'ont plus droit à la parole.
Oui, toujours dans cet épisode, il y a un an, on évoquait la destitution du député Rahul Gandhi, une figure d'opposition.
Oui, alors Rahul Gandhi, depuis, il a été blanchi en fait par la Cour suprême, mais il n'est pas le seul à être victime de la répression. Ça a été aussi le cas tout récemment pour le ministre en chef de Delhi, celui qui dirige la région capitale en Inde et qui est d'un des principaux opposants à Modi. Il a été arrêté quelques jours seulement avant les législatives sur un motif un petit peu sulfureux. En tout cas, apparemment, on n'a aucune preuve contre lui. En fait, aujourd'hui, en Inde, on peut se faire arrêter pour un tweet ou un post Facebook qui déplaît au gouvernement. On ne peut plus critiquer Modi sans craindre des représailles. Et puis, en février, autre exemple, le parti du Congrès, donc le principal parti d'opposition, a vu ses comptes bancaires gelés Le gouvernement Modi est évidemment soupçonné d'avoir voulu l'empêcher de financer sa campagne. Et si c'est avéré, eh bien, c'est semblable aux tactiques de Vladimir Poutine pour se maintenir au pouvoir en Russie.
De telles pratiques, ça fait effectivement penser à des dérives autoritaires. Est-ce que c'est aussi le cas sur d'autres aspects du mandat de Narendra Modi ?
Oui, alors avec Modi, il y a un vrai culte de la personnalité, par exemple. Mmh. C'est quelque chose d'absolument inédit, même si à l'époque d'Indira Gandhi, dans les années 70, c'était un peu le cas. Mais là, c'est démultiplié. Narendra Modi personnifie vraiment le pouvoir. Ses portraits sont affichés partout dans le pays, dans les gares, dans les rues, les aéroports, devant les écoles. On ne peut plus faire un pas dehors sans tomber sur sa tête. Et souvent, eh bien, quand on interroge la population pendant les campagnes électorales et qu'on demande « Est-ce que vous allez voter pour le BJP ou pour le Parti du Congrès ?» Eh bien, les gens ne répondent pas comme ça. Ils disent qu'ils vont voter pour ou contre Modi. C'est dire comment le régime a été personnifié, vraiment incarné par le personnage de Narendra Modi.
Un Premier ministre qui menace directement la survie de la démocratie indienne. On va maintenant voir quel avenir se dessine pour le pays si Narendra Modi est élu pour un nouveau mandat.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Se maintenir au pouvoir, c'est donc tout l'enjeu de ces élections pour le Premier ministre. Guillaume, quel est le programme de Narendra Modi ?
Alors cette année, il n'a pas vraiment de programme. Modi, en 2014, c'était le développement économique. En 2019, c'était plutôt le thème de la sécurité. Cette année, son seul objectif, c'est d'obtenir une majorité écrasante à la Chambre des députés. En l'occurrence, avoir 400 sièges à l'Assemblée. Ça viderait les rangs de l'opposition. Mais surtout, ça permettrait à Modi de modifier la constitution indienne. Alors pourquoi il veut modifier la constitution ? D'abord pour gommer le terme de séculaire, l'équivalent de notre laïcité, pour faire de l'Inde anciennement laïque une nation hindoue. C'est ça l'objectif de son parti. Mmh. Il pourrait aussi, ça c'est des supputations, mais il y a quand même des allusions de la part de Modi lui-même et de ses ministres, il pourrait changer le régime politique, changer le régime pour rester au pouvoir longtemps, parce qu'en fait Modi a une obsession, c'est de laisser une trace dans l'histoire et de rester plus longtemps que ne l'était resté Nehru, le premier ministre de l'Inde indépendante, qui a dirigé l'Inde pendant près de 17 ans. Donc Modi en est à 10 ans. Et le problème, c'est qu'il a déjà 73 ans, donc ce n'est pas encore gagné.
Aujourd'hui, d'après certaines enquêtes, 8 Indiens sur 10 auraient une opinion favorable de leur premier ministre. Des chiffres à prendre avec précaution. Mais j'imagine, Guillaume, que si Modi a déjà été élu à 2 reprises, c'est qu'il possède une certaine popularité.
Oui, tu as raison, les sondages sont absolument pas fiables en Inde. Mais ce qu'on peut dire, c'est que si Modi est populaire, c'est qu'il a quand même réalisé de bonnes choses. Jamais on a construit autant d'infrastructures en Inde, des routes, des aéroports, des ports, des voies de chemin de fer. Il a aussi multiplié les programmes sociaux. Et puis son parti, le BJP, a organisé des distributions de sacs de riz, de sacs de lentilles, des bonbons de gaz pour la cuisine. Le gouvernement a aussi construit des toilettes partout dans les villages, distribué de l'argent aux agriculteurs. Mais tout cela, en réalité, c'est un aveu de faiblesse, selon moi, parce que ça veut dire qu'il y a encore énormément de gens qui ne mangent pas à leur faim. Aujourd'hui, c'est un peu plus de 800 millions d'Indiens qui ne peuvent pas subvenir à leurs besoins tout seuls et qui ont besoin de ces aides directes de l'État. Ça a contribué à rendre Modi très populaire aux yeux de la population, mais ce n'est pas du tout la marque d'une réussite économique, au contraire.
Et justement, au niveau économique, à quel nouveau défi il serait confronté s'il est maintenu au pouvoir ?
Eh bien, sans surprise, le plus grand défi de l'Inde, c'est sa démographie. Mmh. Une population jeune, de plus en plus qualifiée, qui ne trouve pas d'emploi. Jamais le chômage a été aussi élevé. Modi avait promis en 2014 qu'il créerait des emplois pour tous ces jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Ça représente 1 million de jeunes chaque mois. C'est énorme. Et en fait, le contrat n'a pas été rempli. Et puis, l'autre problème, c'est une population qui commence à vieillir, en fait. Et ce, dans un pays qui n'a ni sécurité sociale, ni système de retraite. Donc, on imagine les difficultés que va rencontrer la population dans les années à venir. Narendra Modi, lui, il adore rappeler que l'Inde est le cinquième PIB mondial devant le Royaume-Uni, mais en réalité, ça ne veut rien dire, parce que si on rapporte ce PIB par habitant, l'Inde est en fait au même niveau que des pays comme la Côte d'Ivoire ou le Zimbabwe, et derrière le Bangladesh. C'est donc à se demander comment l'Inde peut prétendre être une puissance économique quand elle n'arrive même pas à assurer les besoins quotidiens de sa population pour l'instant.
Pourtant, Guillaume, l'Occident continue de faire la cour à l'Inde, et donc à Narendra Modi. On se souvient par exemple qu'Emmanuel Macron s'est rendu à New Delhi en janvier dernier.
L'Inde et la France, c'est une vieille histoire, ce n'est pas à vous que je vais le dire. C'est une histoire de fascination réciproque, d'influence, d'imaginaires qui se sont mutuellement inspirés.
Si l'Inde est aussi intéressante pour les Occidentaux, c'est parce qu'elle représente un contrepoids à la Chine. Surtout avec le rapprochement en cours entre la Russie et la Chine depuis la guerre en Ukraine. Mm-hmm. Et puis, tu t'en doutes, l'Inde est le pays le plus peuplé du monde aujourd'hui. Ça représente un marché économique absolument colossal, même si ça reste encore de l'ordre du mirage. Les Occidentaux imaginent les débouchés futurs. C'est pour cela qu'on essaie de faire ami-ami avec Narendra Modi et son gouvernement et qu'on choisit de ne pas voir ses dérives autoritaires. Mais aussi et surtout, Modi a restauré l'image de l'Inde en étant très présent à l'étranger, en voyageant beaucoup, en rencontrant les grands dirigeants du monde. Pour les Indiens, Modi redonne sa grandeur au pays sur la scène internationale. Modi affirme, lui, que le 21e siècle sera le siècle de l'Inde, le siècle de la revanche.
Narendra Modi, un Premier ministre à la fois adulé et contesté. Merci beaucoup, Guillaume. On va continuer de surveiller avec toi les résultats des élections.
À bientôt.
Guillaume Delacroix, ancien correspondant en Inde pour l'Express et co-auteur du livre « Dans la tête de Narendra Modi » aux éditions Actes Sud. Tous ces articles sur l'Inde sont à retrouver sur l'express.fr. Pour les lire, il vous suffit de vous abonner. Le premier mois ne coûte qu'un euro en ce moment. Et pour ne rater aucun épisode de La Loupe, pensez à vous abonner sur votre plateforme d'écoute, par exemple Deezer, Apple Podcast ou Podcast Addict. Cet épisode a été écrit et monté par Léa Bertrand, réalisé par Jules Cros. Retrouvez-nous demain pour passer un nouveau sujet à La Loupe.